Le philosophe Alain estimait que penser, c'était dire non. Le signe du oui est celui d'un homme qui s'endort. Quand la pensée dit non, elle combat contre elle-même. Ce qui fait que le monde me trompe, c'est que je consens, que je ne cherche pas autre chose. Voilà ce qu'il écrivait. Alors, les complotistes sont-elles des personnes qui ont dit non et qui ont exercé leur esprit critique? L'esprit critique, justement, on en parle ce matin avec Manon Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice scientifique au sein de Gap Science Animation. Ce samedi, vous animerez une visioconférence, puisque crise sanitaire oblige, sur l'esprit critique. C'est quoi l'esprit critique?
Eh bien, l'esprit critique, c'est en général la faculté de douter, de remettre en question les informations qu'on nous présente, évidemment, mais aussi de se remettre soi-même en question. Ça, on pourra y revenir un peu plus tard, mais on est perclus de failles de raisonnement qui nous empêchent d'avoir une vision globale ou du moins très neutre des choses.
Donc, finalement, ça correspond bien à ce que le philosophe Alain disait.
Oui, j'aime bien cette citation.
Les complotistes, la théorie du complot, on en parle énormément en ce moment. Alors, on en parle par rapport à la pandémie, mais par rapport à beaucoup d'autres informations. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que c'est l'esprit critique qui s'opère?
Qui est mis à mal par un ensemble de facteurs. Alors, ma réponse sera forcément incomplète parce que c'est un phénomène qui est multicausal. Mais déjà, nos modes de communication ont évolué. Forcément, ils sont plus rapides et surtout plus horizontaux. Donc, n'importe qui peut documenter ce qu'il voit. Ça vient de sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, aux événements historiques. Donc ça, c'est très bien, ça implique des avantages démocratiques, historiques et humains, en termes de liberté, d'accès à l'information. Mais la contrepartie, c'est celle de cette horizontalité, c'est qu'un mensonge ou une distorsion de la réalité peut se propager tout aussi rapidement. Mais il ne s'agit pas de blâmer Internet pour ça. Internet, ça n'a jamais fait naître les infox. La rumeur, les mensonges, les fausses idées individuelles ou collectives, ça a toujours existé. Et d'ailleurs, on remarque, puisqu'on parle de pandémie, que les périodes troublées de l'histoire, donc les guerres, les épidémies, sont très propices à ce genre de phénomène. Et ça s'explique très facilement. Les gens sont inquiets, ils raisonnent plus facilement à l'affect. Et on a tendance aussi tous à chercher des coupables.
Et donc, c'est en temps de crise que là, on voit des infox apparaître beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent.
Oui, avant, on pouvait blâmer telle divinité à cause d'une mauvaise récolte ou d'une sécheresse. Plus tard, ça a été désigné la sorcière de la forêt pour la mort du bétail. C'est toujours plus simple de trouver un coupable extérieur, bien identifiable et si possible de le punir. Même si ça n'arrange pas forcément la situation, ça défoule et surtout on se sent moins impuissant.
Et justement, le fait de trouver un bouc émissaire à nos malheurs, comment on parvient à contourner ce piège de l'infox? Alors,
le piège de l'infox, alors ça... De faire une culture en général, scientifique en ce moment, mais une culture en général, ça aide un petit peu à ne pas se faire avoir. L'expression « garder l'esprit ouvert », elle est bien, mais il faut faire attention à ce que son cerveau ne tombe pas par terre non plus. Vous voyez, il ne faut pas tout prendre au premier degré et essayer de décortiquer ce qui nous parvient. Donc ça demande de prendre du recul. Mais si une information joue sur nos émotions, si ça provoque chez nous de la peur ou de la colère ou quelque chose de fort... Il faut s'en méfier encore plus. Et après, ça implique des méthodologies de recherche aussi. Et alors, ça, on se les construit au fur et à mesure.
Pourquoi, quand une information joue sur nos émotions, il faut s'en méfier?
Parce qu'on va avoir plus de difficultés à raisonner, à prendre du recul et à se baser sur les faits et uniquement les faits. Et ça, c'est complètement humain. On a tendance à raisonner à l'affect plus facilement. Mais je pense qu'il faut faire... Il faut accepter que nos émotions, bien qu'elles soient très importantes, puissent nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ça qui est important, en fait. Une information qu'on nous donne, même si on choisit de croire à des choses qui ne sont pas vraies, en soi, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est au moment où ça implique nos décisions et jusqu'où elles impactent la collectivité. Pardon.
Et donc, vous allez le souligner demain, dans cet atelier en ligne « Entraînons notre esprit critique ». L'esprit critique est une composante essentielle pour décoder les informations et notamment... par rapport à la crise sanitaire?
Oui, bien sûr, c'est une composante essentielle. Et même, en général, c'est une composante essentielle dans la vie de la société.
Mais pour quelles raisons, aujourd'hui, l'esprit critique se perd?
Est-ce
qu'il se perd, d'ailleurs?
Oui, c'est ça. En tout cas, il se transforme. Il se modifie, notamment avec l'apparition des réseaux, de ce qu'Internet implique dans notre manière de nous nourrir d'informations. Je pense qu'il évolue. Par contre, ça implique que les gens sont moins guidés dans leurs informations, dans leur recherche d'informations. Il n'y a pas si longtemps, il y avait très peu de chaînes de télévision. L'information apparaissait beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on est au courant en quelques minutes de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Donc ça implique une responsabilisation individuelle qui est plus forte. Mais je pense que ça peut se transformer en quelque chose de très positif pour la société. Mais simplement, il faut qu'on accepte de s'entraider un petit peu aussi dans nos recherches. Mmh. En règle générale, si une information nous perturbe, c'est bon d'en parler autour de nous, de dire aux gens, tiens, j'ai reçu cette information, elle a éveillé en moi des sentiments, des choses un peu fortes, qu'est-ce que tu en penses ?
Mmh. Et vous allez vous intéresser aussi aux arguments, alors c'est écrit, hein, vous le dites dans votre communiqué, aux arguments fallacieux, aux techniques de manipulation et aux astuces marketing. Techniques de manipulation et astuces marketing, est-ce qu'on boxe dans le même ring ?
Oui, quasiment oui. On peut aussi ajouter les techniques politiques. Souvent, c'est des techniques en fait, qui vont s'appuyer sur nos biais cognitifs, donc sur nos failles de raisonnement.
C'est-à-dire ?
On en avait parlé à la conférence du 30 janvier, il me semble. Les biais cognitifs, en général, ça englobe toutes les erreurs que peut faire notre cerveau. Donc, il existe diverses catégories. Les plus connues, c'est les illusions d'optique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des biais sensorimoteurs. Ça touche vraiment à la façon dont notre cerveau fonctionne et interprète les images. Celles dont on parle dans le cadre de l'esprit critique, ce sont des erreurs de raisonnement qui sont moins mécaniques, entre guillemets, plus insidieux. Un des plus redoutables, par exemple, c'est le biais de confirmation, qui nous touche tous. On a tous tendance à mieux percevoir et à mieux retenir les informations qui confirment nos croyances et nos opinions précédentes. Mmh. Donc, si vous montrez la même émission sur un sujet qui porte à polémique, ou pas d'ailleurs, à des gens avec des opinions diverses et surtout bien arrêtées, vous aurez l'impression qu'ils n'ont pas du tout vu le même contenu, parce qu'ils auront extrait seulement ce qui confirme leurs croyances.
Quelle leçon, en tout cas, quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui aux auditeurs qui ne pourront pas participer demain à cet atelier ?
Alors pour les biais cognitifs, les connaître, ça ne les efface pas, ça je peux témoigner. Par contre, ça aide de savoir qu'on n'est pas infaillible et que personne ne l'est et qu'on doit lutter contre nos préconceptions tout en s'appuyant sur ce que l'on sait pour éviter de tomber dans des pièges. C'est un peu ça le paradoxe. Ensuite, et bon là c'est compliqué, c'est éviter de raisonner à l'affect. Ça demande du temps, mais apprendre à reconnaître quand nos émotions prennent le pas sur la logique, c'est très important. Oui, et du coup, en conclusion, je dirais qu'il faut continuer à apprendre et à se questionner, à rester curieux, et essayer de ne pas s'identifier à ses connaissances. Ça, c'est une erreur courante. Il y a beaucoup de gens qui se sentent remis en question personnellement quand on remet leurs connaissances en question. Et je pense qu'il faut être content, au contraire, de se débarrasser de connaissances obsolètes. Il faut aimer se remettre en question, et que l'esprit critique, c'est se critiquer soi-même d'abord.
L'esprit critique, c'est donc se critiquer soi-même. Merci beaucoup Manon Paris d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes médiatrice scientifique au sein de Gap Science Animation. Demain, vous animerez un atelier en ligne. Entraînons notre esprit critique, c'est à 17h. Toutes les informations, vous les retrouverez justement sur alpin.com dans le podcast, puisque cette émission du 8h30 sera podcastée d'ici quelques instants. Merci beaucoup Manon Paris.
Merci à vous.